Vous êtes sur RTL.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Bonjour, bonjour les amis, bonjour. Soyez les bienvenus. J'espère que vous passez un bon début de week-end. Moi, c'est RTL vous régale. Comment ça va les copains?
Bah, super. Mais magnifiquement bien.
RTL vous régale qui débute ce matin par cette citation d'auteur inconnu. Je cite, « On sait pourquoi les Anglais préfèrent le thé dès qu'on a goûté leur café. »
Magnifique.
On a donc choisi de vous parler de thé ce matin, même si ce n'est pas nécessairement notre tasse au départ. Hein, et on a réfléchi aux manières de vous le servir dans l'assiette, car RTL vous régale reste une émission de gourmandise. Car oui, les thèmes de cette émission sont mûrement, voire scientifiquement réfléchis. RTL vous régale ou quand la science infuse, c'est jusqu'à 11h30 et c'est sur RTL. C'est donc avec une certaine excitation due à la théine sans doute que nous allons vous faire découvrir le thé en cuisine. It's tea time avec Louise Petit-Renaud et Jean-Seb Petit-Demange. L'occasion pour vous de temps T'es votre chance et affiner peut-être un week-end de détente et de divertissement dans un casino et hôtel Partouche en appelant le 3210 pour le défi frigo de tout à l'heure. On vous attend au standard. RTL vous régale, l'instant T avec au menu ce matin, ma chère Louise.
Bah, on connaît de près ou de loin le thé, mais est-ce qu'on sait le cuisiner et surtout comment on se régale avec du thé? C'est le programme du jour. Nous recevons François-Xavier Delmas, fondateur du Palais d'été. Bonjour François-Xavier.
Bonjour à vous, merci pour votre bonne humeur.
On connaissait les chercheurs d'or, mais un petit peu moins les chercheurs de thé. On a hâte de vous entendre là-dessus, François-Xavier. Soyez le bienvenu. Angèle Ferromacte de la guinguette d'Angèle sera aussi avec nous. Elle va nous faire saliver qu'une cuisine saine assortie au thé. Et puis, on va enfin pouvoir ouvrir la première case de notre calendrier dans quelques jours. Je vous ai concocté une petite sélection. Vous allez voir le calendrier. Il y a du chocolat, du vin, puis évidemment du thé. Sortez vos mugs. Vous êtes bien dans RTL vous régale.
RTL vous régale.
On ne peut pas être et avoir l'été. Voilà. Jean-Sébastien.
Oh là là. L'été, c'est la deuxième boisson la plus bue au monde après l'eau. Que ce soit en sachet de base ou en thé haut de gamme, les Français sont 2 sur 3 à boire du thé tous les jours. Alors on connaissait le goût des Britanniques pour le thé. Ils en consomment 2,3 kg par an et par habitant. Nous, on est à 250 grammes de thé par an et par habitant. On a du chemin à faire. Le thé, il apparaît comme la boisson universelle. C'est une star. Il n'y a pas une, mais 3 légendes qui racontent l'origine du thé. Une légende chinoise, une autre indienne, une troisième japonaise. L'histoire du thé, c'est aussi une aventure totalement incroyable qui devient mondiale à partir du 17e. Lorsque les premières caisses de thé arrivent à Amsterdam, c'est l'aventure des Tea Clippers. C'est la grande aventure de la Compagnie des Indes orientales et le début d'une immense bataille commerciale entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni et puis les Chinois qui furent longtemps le seul pays à vendre du thé. Alors du coup, ils imposaient leurs règles avec des prix prohibitifs, avec un accès limité au port de Canton, avec le refus d'échanger le thé contre les textiles anglais. Du coup, les Anglais ont décidé d'introduire de façon illicite l'opium en Chine pour créer une dépendance, pour avoir une monnaie d'échange. C'est devenu la guerre de l'opium qui s'est achevée par l'annexion de Hong Kong par les Anglais en 1842. Tout cela à cause du thé. La fièvre du thé a gagné le monde. On en produit dans toutes les régions aujourd'hui où il y a un climat chaud, humide et des pluies régulières. Il y en a en Amérique, il y en a en Afrique, il y en a évidemment en Asie. On commence à en cultiver même en Europe. Tout ça fait que la demande de thé fait face à cette culture mondialisée. Et on trouve aujourd'hui du très bon, de l'exceptionnel, et puis du très 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 bas de gamme.
On va vous en parler dans quelques instants, pas du très bas de gamme mais du plutôt exceptionnel. François-Xavier Delmas, merci d'être notre invité dans cette émission ce matin.
Ça fait plaisir. Et c'est passionnant ce retour historique. Et il y a aussi un acte majeur qui est quand même l'indépendance des États-Unis.
Oui.
Le fait de couler un bateau, la Boston Tea Party.
Absolument. C'est intéressant parce que c'est vrai que le thé c'est un peu comme le vin, un peu comme le sel aussi. C'est un bon pied d'entrée dans l'histoire souvent.
Exactement.
Et on va le vérifier dans cette émission. Vous signez Tea Sommelier, le thé en 160 leçons illustrées. Pour tout savoir sur le thé, technique de dégustation, le thé et sa culture, les bons accords entre thé et mets, c'est pareil que pour le vin ou la bière, les usages du thé en cuisine, on en parlera, les meilleurs thés du monde, et alors devenir tea sommelier, je connaissais pas l'expression, sommelier de thé en fait.
Bah, sommelier en thé en français ça marche pas trop, donc c'est l'expression anglaise qu'on garde, tea sommelier. La première fois que je l'ai entendu, c'était un palace de Macao qui m'appelait au téléphone il y a une dizaine d'années et qui me disait, dites donc, là j'ai des personnes qui voudraient déguster du caviar, et on voudrait un accord avec le thé.
Vous avez servi quoi ?
Un gyokuro japonais, parce que servi à température ambiante.
J'adore la manière dont vous me dites, bon évidemment un gyokuro japonais, avec quoi tu viens ? moi tu me dis caviar, je dis gyokuro. On va s'en parler dans quelques instants. Voilà, je retiens donc qu'on n'est pas sommelier en thé, on est tea sommelier.
Tea sommelier.
Parce que je connaissais les maisons en thé, mais pas le sommelier en thé. Allez, à tout de suite sur RTL. Oh bon, oui c'est samedi, à tout de suite, bougez pas.
Restez bien avec nous. RTL vous régale, revient tout de suite.
Il y a 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
C'est pas l'heure du café, c'est l'heure du thé ce matin. C'est tea time un peu avant l'heure dans RTL vous régale. On va vous parler du thé parce qu'on adore ça, parce qu'on ne le connaît pas forcément très très bien. Et pour l'apprivoiser, on a décidé d'inviter François-Xavier Delmas. Merci d'être avec nous. Vous venez de rentrer d'un voyage sur les routes du thé. J'adore cette expression, ça évoque tellement de choses. Vous êtes passé par la Colombie, le Pérou, etc. C'est l'Amérique du Sud. C'est pas forcément les thés les plus connus, ceux d'Amérique du Sud.
Non, et c'est dommage, parce que justement, mon métier de chercheur du thé, ça consistait à la fois à aller dans des endroits réputés, prestigieux, des noms comme Darjeeling, évidemment. Mais c'est aussi d'aller dénicher des pépites. Et de même que il m'est arrivé d'aller en Afrique, au fin fond du Rwanda, du Malawi, qui fait des thés absolument formidables. Et ben, l'Amérique du Sud aussi fait des thés. Et ces deux endroits-là, dans la forêt amazonienne, notamment au Pérou, on fait des thés extraordinaires. Et il y a quoi, une dizaine de petits fermiers. Et je suis le premier occidental à les avoir rencontrés. C'est la première fois qu'il y a un acheteur de thé occidental. Et pour eux, ça a été un choc, c'est de dire, donc, si on fait des choses qui sont belles, on nous paiera le prix pour...
Non, parce que c'est ça le but, finalement. Si
c'est, le but, c'est qu'un fermier qui gagne que dalle en fabriquant quelque chose de mauvais arrive à faire quelque chose d'exceptionnel qui va lui rapporter 20, 30, 40 fois plus et qui, surtout, va lui rapporter de la fierté et le bonheur de faire quelque chose de gastronomique. Ça veut dire... là, on parle de gastronomie.
C'est ça qui nous intéresse, justement, puisque RTL Vauriel est une émission de gastronomie, Louise.
Moi, j'ai une question un peu bête, François-Xavier, mais en fait, c'est quoi du thé ?
C'est un camélia. Le camélia, c'est une plante. Et vous allez récolter le bourgeon et les deux feuilles suivantes. Et vous avez les tordre d'une certaine manière, les malmener un peu. Et vous allez en faire soit du thé vert, soit du thé noir. C'est le même arbuste qui donne ça.
Soit c'est du thé toujours vert, du camélia.
C'est toujours le
même camélia sinensis. Oui, après, il y a différents. De même qu'il y a des cépages différents pour le vin, pour la vigne. Pour le thé aussi, il y a différents cépages. Mais c'est à chaque fois un camélia sinensis, qui signifie camélia de Chine, avec différents cultivars. Donc, on va prélever sur chaque rameau le bourgeon terminal avec les deux feuilles suivantes. On va leur faire subir différentes choses selon que l'on souhaite faire un thé vert, un thé blanc, un thé noir, un thé jaune.
Ah, donc
thé...
on décide nous-mêmes de...
C'est fou.
Ah ouais.
Je savais
pas. Et on leur fait subir quoi ?
Alors, dans le cas du thé noir, parce que c'est le plus simple, on va laisser la petite feuille se flétrir toute la nuit.
Vous faites très bien la petite feuille à flétrir, si je peux me permettre.
80% d'eau, la petite feuille, et on va redescendre à ce qu'elle est à peu près 40% d'eau. Donc toute la nuit, on va les laisser comme ça.
Comme le piment. Non, mais on la laisse sécher, c'est ça ?
Au petit matin, on va la réveiller, on va la secouer assez fort, on va la rouler 15 minutes à peu près, entre 15 et 20 minutes. Ça consiste à briser la structure de la feuille sans briser la feuille elle-même. Il faut la malmener de telle façon que les cellules soient brisées et que le jus qui est dans les cellules sorte. Et on passe à ce moment-là à l'oxydation, troisième étape, très simple. Oxydation, c'est quoi ? On laisse la feuille à l'air libre après l'avoir malmenée et ça noircit. Exactement le même phénomène quand vous coupez une pomme en deux.
Ça, c'est le processus, je dirais, artisanal, de base. Quand on fait du thé en grande quantité, alors, c'est impossible de s'occuper de chacun des bourgeons, et de chacune des feuilles.
Que je vous ai décrit, c'est le processus qualitatif.
Après, il y a l'industriel.
Dès que vous passez dans l'industriel, de toute façon, c'est relativement peu intéressant. Enfin, moi, personnellement, c'est pas trop mon truc, parce que, en gros, si c'est industriel, on va tout faire pour que ça coûte moins. L'industriel, au lieu de récolter à la main, on prend des cisailles, des haches, des cisailles, tout ce que vous voulez.
Et on prend tout.
Des haches.
Ouais.
Et on prend
des
hallebardes.
Des trucs électriques, là, un moteur, des machins. Bref, c'est déjà plus ça dès le début. On a créé des machines qui accélèrent le process de façon à gagner du temps, de l'argent, etc. Et à la fin, on a un truc médiocre qui est brisé, qui est en poussière et qui va dans des sachets en papier et qui vous font croire qu'il y a quelque chose dedans parce qu'en deux secondes, quand vous plongez votre sachet dans l'eau, c'est vous noir. Avez de noir. Et comme il y a de la couleur, vous allez supposer qu'il y a du goût.
Et c'est quoi qui donne la couleur, justement, dans
ces sachets
médiocres ?
Parce qu'en fait, il est ultra brisé, que c'est de la poussière. Et comme c'est de la poussière,
donc on boit
ça va dégager. Bah, on boit de l'infusion de poussière, oui.
Dingue, mais donc, François-Xavier,
comment
on reconnaît un thé de qualité ?
Il est en feuille entière, voilà. C'est tout. Donc un thé de qualité, ça s'achète chez un commerçant qui connaît quelque chose de préférence. Il va vous montrer la feuille de thé. Les boîtes, elles sont pas scellées normalement chez un marchand de thé.
Il n'est pas dans un sachet en papier, justement ?
Non, il faut pouvoir regarder la feuille avant de l'acheter, sentir.
Dans une mousseline, dans un...
Ça, c'est en cas de dépannage. Bien sûr que si moi-même, quand je prends un avion ou que je vais dans un hôtel, je préfère avoir mon thé avec moi. Donc parfois, je vais être content qu'il soit dans des petites mousselines en coton, etc.
Il y a une vingtaine d'années, donc, on s'est mis à découvrir les thés que vous vendez, François-Xavier, que vous découvrez. C'est quand même quelque chose qui est très particulier, qui s'adresse à une catégorie de personnes.
Et dont on va parler dans un instant.
Il va quand même falloir qu'on parle de prix à un moment.
Bien sûr. On y vient, bougez pas.
Mais je ne bouge pas.
Non, mais attends, je reste là.
Mais le bon thé, ça vaut rien du tout. Mais ça vaut très peu. Si vous faites le prix au litre, attention, parce qu'un paquet de thé.
Oui, c'est pour ça.
C'est 2 grammes par tasse.
Alors bougez pas. On va vous donner les prix. On va vous expliquer comment on déguste du bon thé, comment on le reconnaît, et puis surtout comment on le cuisine. Parce qu'on parle de gastronomie et de cuisine dans cette émission. Puis on va déguster des trucs, parce que je vous vois avec vos flacons. C'est l'alchimiste qui est de retour. Allez, à tout de suite sur RTL.
Ne bougez pas. Dans un instant, RTL vous régale revient.
Allez, j'en profite pour vous dire que vous pouvez tenter de gagner une Fiat 500 électrique avec la complicité d'RTL, des Grosses Têtes et de Fiat. Vous appelez le 3210 dès maintenant, 50 centimes d'euros la minute, ou bien vous envoyez le mot voiture par SMS au 74 975 centimes d'euros par SMS, 4 SMS maximum. Et rendez-vous dans les Grosses Têtes jeudi 1er décembre pour savoir si vous êtes l'heureux gagnant de cette Fiat 500 électrique. Je vous souhaite bonne chance.
Vous régale
avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault.
Alors, c'est pas le 5 o'clock tea parce que c'est absolument pas l'heure, mais on va le devancer un petit peu ce matin.
C'est ça qui est drôle parce qu'on vient de parler de thé exceptionnel. Le 5 o'clock tea, c'est le rituel, la coutume instaurée au 19e siècle par la duchesse de Bedford qui avait l'habitude de ne manger tôt le matin et tard le soir. Et puis donc, elle avait un petit creux au milieu de l'après-midi. Donc, elle a pris l'habitude de faire une petite dégustation avec du thé et puis une petite collation vers 16-17 heures. On est autour de 1840 et commence à inviter plein de pour partager ce thé, c'est devenu la quintessence des coutumes anglaises. On peut prendre ce thé aujourd'hui avec les fameux sandwichs au concombre que vous adorez, Jean-Michel. Il y a également les shortbread. Moi, j'adore les scones. Petit pain avec une pâte assez dense qui se rapproche parfois plus du biscuit que du pain. C'est ultra simple à faire. Vous allez mélanger à la main 250 g de farine, 60 g de beurre ramolli, un sachet de levure chimique. Vous ajoutez à cela 40 g de sucre et un peu de sel. Une fois que le mélange est sableux, vous continuez à mélanger à la main en ajoutant 10 centilitres de lait petit à petit. Vous pétrissez le tout jusqu'à avoir un mélange lisse et homogène. Vous étalez la pâte, il faut que ça fasse 2 cm d'épaisseur, et puis vous allez détailler avec un verre qui va faire 5 cm de diamètre. Une plaque de cuisson, du papier sulfurisé, un four à 220 degrés, 12 minutes plus tard, vous avez des scones que vous pouvez couper en deux. Et là, vous mettez du beurre qui va fondre, un peu de lemon curd ou un peu de confiture de fraises des bois, voire, soyons dingues, du cheddar. Et vive le thé.
Ah bah oui, c'est l'éternel débat en Angleterre, hein. Soit on est Beatles, soit on est scones.
Voilà.
Dites-moi, on va parler avec François-Xavier Delmas de cet thé parce qu'il en a apporté. On a tous 4 dégustations. On va partir de gauche
4
à droite.
Quatre tasses
qui sont des gobelets en carton pour ne rien vous cacher. Parce qu'on est en studio à la radio et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. François-Xavier, expliquez à tous ceux qui écoutent RTL ce matin ce qu'on va déguster et pourquoi et comment.
Pourquoi est-ce qu'il y a un engouement aussi des Français pour le thé à l'heure actuelle? C'est que chez nous, on n'a pas de coutume, contrairement aux Anglais. Les Anglais qui, eux, rajoutent du lait, etc. Donc nous, on le boit tel quel. Ça permet de découvrir des thés différents. Je vous propose 4 thés différents. On peut goûter le premier. Justement, le Gyokuro. Là, on part tous ensemble. Fermez les yeux. On arrive au Japon. C'est un thé vert. Donc là, vous avez un thé qui est infusé à température ambiante. Quand on a envie de faire sortir le thé de la théière et qui rejoigne un peu le domaine de la cuisine... de faire infuser du thé dans de l'eau à température ambiante. Ici, il a infusé 30 minutes.
Je suis novice, hein, je vous avoue. Franchement, je vais peut-être dire une énormité. J'ai l'algue.
Oui.
Ah oui, l'algue.
Oui, c'est végétal et marin.
Ah ben, on est d'accord.
Iodé de végétal, de marin. Il y a une saveur qui s'appelle l'umami, donc c'est quelque chose avec une grande plénitude en bouche.
Mais alors justement, François-Xavier, pour ceux qui connaissent absolument pas le thé, bon, je fais partie de ces gens-là. Le matin, on a du Darjeeling fréquemment. C'est quoi le Darjeeling ?
Darjeeling, vous êtes dans l'Himalaya, vous êtes perché dans un des endroits que je préfère au monde. Vous avez devant vous le troisième sommet du monde qui s'appelle le Kanchenjunga. Et vous êtes en Inde, mais à peu près aux confins du Népal, du Bhoutan, le Tibet à quelques kilomètres de là. Et c'est une petite.
On est toujours sur le même arbre.
Bien sûr, on est
ah ouais. On n'est pas descendu.
On reste perché.
Qu'il soit
toujours.
Dans le Cantal ou dans l'Himalaya.
Vous l'avez dit, vous êtes perché.
Alors, si on veut maintenant c'est découvrir des nouveautés, comment on peut commencer par quoi quand on n'a pas le palais éduqué?
Il faut descendre.
Le thé, c'est comme la vigne. Vous avez à la fois ce qui pousse et ce que l'homme et la femme va en faire. Donc, le travail du thé est jamais fini, le travail de dégustation, parce que quelqu'un qui fait à Darjeeling, par exemple, ou là, au Japon, dans la région de Uji, un certain thé, rien ne dit que l'année prochaine, il va être capable de faire le même thé. Donc, en fait, c'est un travail permanent. Dès que vous allez chercher une matière première exceptionnelle, eh ben, bien entendu, elle ne sera pas régulière d'une saison à l'autre. Et c'est ça l'intérêt de la gastronomie, c'est justement
Xavier,
de devoir retravailler tout ça.
Dans la série des questions basiques, oui. Pour les auditeurs d'RTL et pour nous qui sommes des novices encore une fois, arrêtez avec ces bruits de bouche.
C'est moi, pardon.
Ah non, pardon, c'est vous.
C'est pas grave.
Non, mais je voulais vous dire, c'est quoi un bon thé? Qu'est-ce qui fait un bon thé?
Une harmonie.
Non, mais c'est subjectif, non?
Non.
Ça dépend du palais de chacun.
Quand vous mettez un liquide dans la bouche, vous avez trois sens, le goût, le toucher et l'odorat. Et c'est simplement une harmonie entre ces trois sensations. Le thé est rangé dans les boissons amères. S'il y a trop d'amertume ou pas assez, ça va flinguer le plaisir que vous allez avoir. Donc en fait, si vous avez un thé très long en bouche, il va supporter une assez nette amertume. Et vous pouvez avoir aussi une petite astringence, qui est ce côté un peu, quand vous passez la langue à l'intérieur des joues, ce côté un peu rêche, un peu sec. Encore une fois, le thé, c'est une question d'harmonie, comme la plupart de choses que vous mettez en bouche lors d'un repas.
Très vite, pour terminer, ce Gyokuro, on le sert avec quoi? On mange quoi? Quoi là-dessus?
Ah bah des noix de Saint-Jacques par exemple, c'est tout ce qui vient de la mer,
je
c'est là
donc effectivement bien les sûr. Fruits de mer ou les choses
et
comme ça.
Et dites-vous aussi qu'après avoir infusé la feuille, elle peut encore vous servir. La feuille humide que vous apprêtez à jeter parce qu'elle vous a déjà offert du thé.
On en fait quoi?
Eh bien, vous allez la mettre au four, vous allez cuire un petit filet de sol par-dessus. Donc déjà, le petit filet de sol, il ne va pas toucher la plaque chaude, ce qui n'est pas débile.
Ouais, ouais.
Et il va en plus s'imprégner un peu à la fois du parfum du thé, et ça va apporter simplement de la longueur en bouche, et votre sol, elle va se prolonger.
J'ai mon deuxième verre. On goûte quoi? Dans un instant, pas tout de suite.
Goûté,
non, non, on ne touche à rien. On goûte quoi?
On reste au Japon, mais alors, il lui est arrivé des trucs incroyables. C'est un thé rôti.
On vous raconte des histoires, c'est RTL vous régale, comme tous les samedis matins, 10h, 11h30. Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me, any sunny morning. What a pleasure it would be, chatting so delightfully. Nanny bakes fairy cakes every Sunday. As a rule, the church bells chime when it's almost supper time. Nanny bakes fairy cakes on a Sunday morning. Forcément de circonstance, English tea, c'était Paul McCartney sur RTL. Tiens, vous voulez vider votre frigo en défiant Louise et Jean-Seb, n'oubliez pas, 32-10, le standard d'RTL est à vous. Et dans un instant, nous recevrons Angèle Ferremacht. On parlera de cuisine et de thé, parce que le thé se cuisine. À tout de suite dans RTL vous régale.
Tout de suite, retour d'RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. 10h15, 11h30. RTL vous régale
avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Et avec Angèle Ferremac qui est notre invitée dans RTL vous régale. Bonjour Angèle.
Bonjour Jean-Michel, bonjour tout le monde.
Bienvenue sur RTL. La guinguette d'Angèle, rue Coquillère à Paris, ou dans le premier arrondissement, ou rue Cadet dans le 9e. Votre passion pour le thé en cuisine, elle a commencé comment ?
Elle a commencé en buvant du thé et en trempant un gâteau sec dedans, je crois.
Du coup, vous vous êtes dit quoi à ce moment-là ?
Ben, je me suis dit, mais tiens, il n'y aurait peut-être pas un truc à faire, mettre le thé dans le gâteau au lieu de mettre le gâteau dans le thé.
Ah, pas mal.
Mais c'est exactement mais non, c'est ça. On va parler de cuisine, justement. Comment on travaille le thé en cuisine ?
On peut le travailler infusé dans du beurre, dans de l'huile, dans des bouillons, ce genre de choses. On peut le travailler aussi écrasé, moulu ou en poudre, qu'on pourra ajouter à des chapelures, à des plats, s'en servir comme des aromates. Et on peut le travailler aussi fumé, en le fumant.
Puis il y a des thés qui sont naturellement fumés aussi. Je pense au l'absinthe souchon, par exemple, qui est naturellement fumé.
Oui, et en effet, le thé fumé, comme le dit Angèle, ça, c'est quelque chose de laquelle on peut cuisiner. On peut même sortir le poivre du moulin, le remplacer par du thé fumé et saupoudrer.
Ça marche, hein.
Ouais. Ou alors à l'époque, où aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui sont végétariens, vous n'allez pas leur faire une saucisse de morteau.
Mais c'est si bien dans la... dommage.
Mais si. Mais oui, mais. Si vous parfumez votre soupe avec du thé fumé. Vous fermez les yeux et c'est comme si elle y était, la saucisse.
Non, mais nous, on est capable de faire infuser la morteau, donc si vous voulez. Non, blague à part. Angèle Ferremac, qu'est-ce que vous pourriez nous proposer ? Là, il est un peu plus de 10h ce matin. Est-ce que vous pourriez nous proposer un plat pour ce soir, un truc vite fait, pas cher, avec un ingrédient qu'on a a priori tous dans nos frigos en cette période-ci de l'année, avec du thé ?
Bon, alors, on passe tout de suite au risotto. Alors, pour le risotto, je vais faire infuser en fait mon bouillon dans un thé, donc je vais choisir un thé pas trop fort. Pas trop amer ni trop sucré. Donc, par exemple, un thé au jasmin ou un thé vert aux fleurs. Et donc, je vais faire mon bouillon de légumes. Donc, je mets un poireau, un peu de carotte, du thym. Et je fais mon petit bouillon. Et à la fin du bouillon, mais vraiment les 10 dernières minutes, parce que je ne veux pas qu'il prenne un goût trop fort, je vais mettre un ou deux sachets de thé. Et ensuite, tout simplement, je fais revenir mon riz dans un petit peu d'huile, un petit peu de beurre, mon riz rond à risotto. J'ajoute un peu de vin blanc, bien sec. Une cuillère de mon bouillon, je laisse un peu réduire et je rajoute quelques louches de bouillon jusqu'à ce que le riz soit absorbé. Et au dernier moment, je mettrai du risotto, un filet d'huile d'olive et c'est tout. Et j'ai un petit risotto très, très minute. Je peux évidemment rajouter des champignons, des oignons, du safran, enfin tout ce que je veux, mais c'est la recette la plus simple.
C'est carrément l'ADN de la guinguette d'Angèle où vous proposez ces plats généreux quand même et en même temps emplis de vitalité à base de produits bio, des produits locaux, il n'y a pas de gluten, vous êtes complètement dans l'air du temps et dans l'air du thé si j'ose dire.
Dans l'air du thé, voilà. Bah, d'ailleurs, je cuisine beaucoup de desserts aussi avec le thé matcha. Parce qu'en fait, je fais surtout une cuisine très gourmande. Et en fait, c'est en plus tard qu'on se rend compte qu'elle est bonne pour la santé, quand on voit qu'on a une vitalité folle. Mmh. Mais en fait, c'est surtout très gourmand. Donc, le thé matcha, notamment, se cuisine extrêmement facilement dans les desserts, dans les cookies, par exemple, dans les gâteaux. Moi, j'aime bien aussi l'utiliser dans les sauces. Par exemple, quand il reste ce petit sachet de thé, vous le pressez. Vous avez vraiment un essence très infusé. Et vous le faites émulsionner un peu avec le jus d'un demi-citron, un peu de sauce soja, de l'huile d'olive. Vous pouvez râper un peu de gingembre. Et alors ça, vous le mettez sur un ceviche de dorade, de lotte, ou même pour les fêtes de coquille Saint-Jacques. Et c'est très, très bon.
Angèle, comment est-ce que vous expliquez qu'on ne cuisine pas plus le thé en France, que ce n'est pas dans nos réflexes ?
Je pense que c'est traditionnel. C'est vrai que on consomme même plus de café, il me semble, en France. Mais le thé a une telle palette, il y a un tel univers, un tel alphabet des thés. On peut en avoir pour toutes les heures, pour toutes les émotions même. Parce que je trouve qu'avoir une bonne odeur de thé dans la maison, ça crée des moments aussi.
C'est vrai, je confirme, on a des thés différents dans le studio d'ailleurs, apportés par François-Xavier, qu'on va continuer à déguster. Il y a des parfums partout. Hein.
Je pense que si les Français, je ne sais pas ce que vous en pensez Angèle, mais à mon avis, la raison elle est simple, c'est qu'il y a 20 ans, les Français ils ne connaissaient rien au thé. Donc ils commencent tout juste à le découvrir dans leur tasse. Bah, du coup, on commence à le découvrir dans l'assiette, mais c'est assez logique que ce soit pas apparu avant. Et je pense aussi le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes chefs qui aient voyagé à Paris, il y a plein de chefs qui viennent du Japon, de plein de pays. Ils viennent aussi avec leur culture. Et le thé, dans des tas d'autres pays du monde, bah, on est avec, on l'avait quasiment dans le biberon. Et ça paraît assez naturel de cuisiner, en tout cas, avec le thé. Il y a tellement d'usages possibles. Et au Japon, par exemple, quand on a fait infuser les plus belles qualités de thé, on va sortir un petit bol, une paire de baguettes, de la sauce de soja et de la bonite séchée et on les mange.
Merci à Angèle Ferremac. Je rappelle deux adresses de la guinguette d'Angèle à Paris, rue Coquillère et rue Cadet.
C'est canon d'ailleurs.
Au revoir tout le monde.
Merci Angèle.
Merci,
de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt.
Bonne fête à vous.
Allez, la suite d'RTL vous régale dans quelques instants. François-Xavier, on goûte le deuxième.
Hein.
Ce sera quoi là?
Alors là, on part.
Juste après la pause. Dites-nous juste ce qu'on déguste.
On part dans une rôtissoire.
Et on vous explique. Ah oui, je confirme.
C'est comme un poulet rôti, sauf que c'est du thé rôti.
J'allais exactement vous parler de ça.
Oui.
Bougez pas, on arrive. À tout de suite dans RTL vous régale.
Dans un instant, RTL vous régale revient.
Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Avec du thé ce matin dans cette émission. À l'heure où a priori la France boit du café, nous on déguste des thés et pas n'importe lesquels. Avec François-Xavier Delmas qui signe Tea Sommelier, le thé en 160 leçons illustrées. Pour tout savoir sur le thé, on a goûté une première tasse il y a quelques instants. Le deuxième, on parlait de poulet rôti. C'est d'une puissance.
Un thé vert grillé en fait, comme il est passé à une sorte de rôtissoire. Si demain vous allez à Kyoto dans le petit marché couvert qui est au centre de la ville et on voit les gars avec la manivelle en train de tourner le thé exactement comme chez nous. Vous voyez les poulets qui rôtissent dans la rue.
Alors c'est du thé à la broche, donc.
Et regardez comme il est différent du précédent. Parce qu'on dit le thé, mais le thé, ça veut rien dire. L'été, il y a une multitude de thés. Ils poussent à peu près au même endroit. Il n'y a pas le moindre rapport entre le gyokuro de tout à l'heure et celui-là. C'est le même arbuste. C'est juste qu'il lui arrive, les petites feuilles, il leur arrive des choses qui n'ont rien à voir.
Là, du caramel. Là. On est au fond d'une casserole où il y a une crème caramel qui a cuite. Ça enveloppe la bouche.
Caramel, bonbons et chocolat, Louise, parce que, évidemment, on va vous parler de chocolat avec les fameux calendriers de l'Avent.
Bah oui, parce qu'on est le 26 novembre. Donc qui dit 26 novembre dit bientôt 1er décembre. Et qui dit 1er décembre dit calendrier de l'Avent.
Déduction, s'il vous plaît.
Chaque année, je ne sais pas si vous êtes encore des grands enfants. En tout cas, moi, j'adore avoir mon petit calendrier de l'Avent. Du coup, je vous ai fait une sélection. Alors, nous allons commencer par celui-ci. C'est le chocolat français. C'est une marque française. Ce sont des chocolats qui sont élaborés en France, sans OGM, sans huile de palme, 100% bio, pur beurre de cacao. C'est des jeunes qui ont créé cette marque et ils ont vraiment pour but de proposer des chocolats responsables et de qualité.
Visuel rock'n'roll. Hein.
C'est hyper coloré, je trouve que pour les ados c'est pas mal.
Ça coûte
34,90€ sur le site Le Chocolat Français en épicerie fine et grand magasin.
Le chocolat des Français, le super calendrier de l'Avent bio en plus.
Exactement.
Merci.
On passe maintenant à un autre calendrier, deux autres calendriers de l'Avent sur le vin. Le calendrier de la vin, pas mal, du domaine du goût.
24 bouteilles de vin.
Exactement. Alors, c'est pour les curieux, les amateurs de vin. Là, franchement, vous allez être servis. Donc, j'en ai rapporté deux. Le premier, là, que je vous montre, c'est le calendrier prestige. Donc, en fait, le principe, c'est assez simple. C'est que chaque petite case renferme une petite bouteille format échantillon. Grâce à une technologie, il y a des vinotes. C'est ce qui va assurer la même qualité et le même goût que le vin en bouteille. C'est quand même vachement bien. Donc, c'est vraiment format dégustation. Donc, c'est forcément à consommer avec modération. Et alors, vous allez retrouver des vins de différentes régions et différentes appellations. Il y a par exemple des Meursault, des Côtes Rôties. Grâce à ce calendrier, découvrir les plus prestigieuses appellations françaises. Et vous avez un petit QR code sur ce calendrier donc, que vous scannez. Et vous allez découvrir les secrets des appellations, de la cuvée en question en fonction du jour, du domaine des vins sélectionnés. Et chaque jour, vous avez une vidéo d'une quinzaine de minutes du vigneron du jour, des secrets de fabrication, des conseils de dégustation. Ce calendrier vaut 69€ pour une dégustation de 24 vins différents.
Pas mal.
Et vous avez la deuxième version XL, la taille des échantillons qui est doublée, c'est-à-dire 4 centilitres. Le calendrier XL, c'est 149€. C'est tous labellisés en bio, des appellations françaises. Vous avez du Pinot Noir, Bourgogne, Alsace Riesling, Côte du Rhône et bien d'autres. Je trouve que c'est vraiment une idée canon
absolument
pour
génial.
Découvrir le vin. Je vous ai apporté aussi deux calendriers, c'est toujours le même principe. Cette fois-ci, c'est 24 jours de thé et d'infusion à découvrir. Le premier, c'est le calendrier thé féerique. Chaque jour, vous allez pouvoir découvrir des créations de thé parfumés avec l'édition limitée de Noël, je crois, François-Xavier, pour un prix de 26€, ce qui est quand même un joli prix pour découvrir 24 thés et infusions différents. Ensuite, vous avez un autre calendrier qui est le chercheur de thé. Ce calendrier est conçu comme un carnet de voyage. Vous allez y trouver des belles découvertes de chercheurs de thé comme vous, François-Xavier. Cette fois-ci, ces thés sont renfermés dans des petites boîtes en métal. Entre 2 à 4 grammes de thé en feuilles entières. Il y a thé noir, vert, fumé. Oh, mes calendriers. Et ce calendrier vaut 49€.
C'est intéressant, François-Xavier, on l'a évoqué tout à l'heure au début de l'émission. Quand on a un thé en vrac, il faut prendre quelle dose de thé, quel poids de thé pour faire son thé. Parce que c'est ça aussi le prix du thé.
Pour une tasse de thé, on prend 2 grammes de thé. Donc c'est vraiment une très petite quantité. C'est une pincée, en fait, entre 2 et 3 doigts. Et ça, c'est une tasse de 10 centilitres.
Et pour avoir un thé d'exception, c'est combien?
On peut se faire un plaisir. Vous voyez le bancha au jicha qu'on a là? Ça, ce sont des thés à 6, 8, moins de 10 euros les 100 grammes. Et il y a déjà des très beaux thés, des grands Yunnan impérial. On est en dessous de 10 euros.
On va goûter quoi dans un instant, François-Xavier?
Alors, je vous emmène à Dharamsala. Dharamsala, on est en Inde. C'est là où vit le Dalai Lama. Cette fois-ci, c'est un thé fumé. Quand on goûte du thé, moi je goûte entre 30 et 150 thés par jour, et on recrache. Le bruit que vous entendez, c'est simplement celui de la rétro-olfaction, parce que quand vous faites du bruit, ça veut dire que vous expirez l'air par le nez, et pendant ce temps-là, vous avez tous vos petits capteurs d'arômes qui rentrent en service, et qui sont là en train d'analyser tout ce qui arrive dans le torrent gazeux, tout plein chargé de molécules.
Beaucoup d'infos en une seule fois, mais j'ai mes réflecteurs en alerte.
Il n'y aurait pas un petit défi frigo, là, dans pas longtemps?
Vous écoutez RTL, et donc forcément, on va vous parler du défi frigo de ce matin. D'ici quelques instants. Ce sera juste après The Weeknd, Less Than Zero. Merci de passer votre début de week-end avec nous sur RTL. Less Than Zero, c'était The Weeknd sur RTL, dans RTL vous régale. Dans un instant, je vous présenterai Sylvie. Sylvie est près d'Angers. Sylvie a ouvert son frigo. Sylvie a découvert un ingrédient.
Mince.
Et elle nous le présentera dans un instant. Ce sera l'objet du défi frigo de ce matin.
Une folie.
Entre Jean-Seb et Louise, dans un parfum soutenu de thé. A tout de suite sur RTL.
Restez bien avec nous. RTL vous régale, revient tout de suite. RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Ajoutez-y Sylvie qui est dans la région d'Angers. Bonjour Sylvie.
Bonjour Jean-Michel.
Et bienvenue sur RTL.
Bonjour,
quand, je dis dans la région d'Angers, je dis dans la région parce que vous êtes chauffeur de taxi.
Et voilà, je suis à Angers même, la place Centre-Ville.
Et ben voilà.
Ah, il y a des embouteillages à Angers ?
Un petit peu, on a le tramway qui s'installe avec une deuxième ligne, donc ça fait un petit peu de circulation, mais ça va.
Très bien, il y a du monde dans le taxi ou pas ?
Alors, j'avais du monde dans la voiture. Ah. Je croyais qu'elles allaient rester avec moi pour m'aider à choisir l'une des deux recettes et puis finalement elles sont descendues. Donc.
Bon, vous vous êtes arrêtée, soyez prudente quand même. Hein.
Je suis arrêtée, je vous écoute.
Alors, je dis prudence, allez-y mollo sur le champignon, tout ça. Pédale douce et patates du même nom.
Exactement. Oh. Je ne sais pas quoi faire de mes patates douces.
Ah,
eh ben, on va vous
ça,
expliquer.
C'est une vraie question, ça.
C'est les patates douces. Mmh. Vous cuisinez les patates douces
j'adore
de temps
ça.
En temps, c'est vrai ?
Ah, j'adore ça.
Ouais.
Très bien.
C'est bien la patate douce. C'est bon, c'est pas cher, c'est un peu sucré. Il y a moyen de faire des tas de choses avec ça.
Et c'est bourratif.
On verra ce qu'on servira comme thé d'ailleurs
non,
sur les recettes.
Beaucoup.
Je compte sur vous, François-Xavier.
Absolument, je me prépare.
On en parle dans quelques instants. Vous écoutez ouais. RTL. Il est 11h. Oui, beaucoup de douceur dans cette patate du même nom, effectivement, proposée par Sylvie, qu'on va retrouver tout de suite. Prochaines infos, tout à l'heure, midi sur RTL.
RTL vous régale.
C'est le défi frigo sur RTL.
Sylvie est chauffeur de taxi, elle est à Angers, elle propose de la patate douce. Elle cuisine, hein, généralement, Sylvie.
J'adore
vous êtes
ça.
Plutôt cordon bleu, d'ailleurs.
Hein. J'adore ça, mais deux passions, la cuisine et le jardin.
Bon, bah, la patate douce, c'est un petit peu délicat, c'est un peu doux, c'est un peu sucré. Voilà, on va voir ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'ils vont faire du salé, du sucré ? C'est Jean-Seb qui commence ce matin. Allons-y.
Écoutez, parce que vous allez juste laver vos patates douces, vous allez les frotter à l'huile d'olive et vous allez les faire cuire entières comme ça à 160 degrés au four pendant 40 minutes. Pendant ce temps, dans une casserole, vous faites chauffer un peu de concentré de tomate que vous détendez avec de l'huile d'olive. Vous attendez juste que ça caramélise un tout petit peu. Vous ajoutez à cela du riz, de l'eau et vous cuisez à couvert par absorption. Une fois que le riz est cuit, vous allez saler délicatement tout ça. Vous aurez coupé pendant ce temps des courgettes, des carottes et un peu de fenouil en mirepoix que vous allez faire revenir dans l'huile d'olive. Vous faites cuire 10 minutes à couvert. Ça va cuire sur l'eau de végétation des légumes, notamment de la courgette et du fenouil. Vous remuez juste ce qu'il faut pour pas que ça attache et vous avez la recette qui est quasiment terminée. Vous faites une petite sauce à base de yaourt grec, de jus de citron et d'une petite demi-gousse d'ail écrasée. Vous fouettez le tout. À partir de là, vous prenez vos patates douces que vous ouvrez en deux. Vous allez les gratter un peu à l'intérieur pour émietter l'intérieur de la patate douce. Vous posez le mélange courgette, carotte, fenouil qui va être délicat. Vous allez recouvrir cela avec le yaourt, quelques feuilles de coriandre. Vous ajoutez à cela le riz et les tomates au milieu.
Top chrono.
Et ça
une
donne un plat végétarien.
Patate douce farcie.
Ben voilà, une patate douce farcie. Tout bêtement.
Avec du riz et des légumes.
Avec du riz, des légumes et du yaourt.
J'aime beaucoup.
D'accord. Sauf que vous allez peut-être préférer, qui sait, la deuxième recette que voici, celle de nous.
Sylvie, je vous propose des gnocchis à la patate douce et au parmesan.
Ah.
Vous allez cuire vos patates douces soit à l'eau, avec la peau, donc à peu près 20 minutes avec une eau bouillante, ou alors au four, comme vous voulez. Pour vérifier que la patate douce est bien cuite, vous mettez un petit coup de couteau, hein, faut qu'elle soit bien molle, un peu comme une purée. Vous sortez vos patates douces, vous les pelez à la cuillère pour récupérer que l'intérieur et vous l'écrasez comme pour faire pareil une purée. Pour faire les gnocchis, super simple, vous ajoutez à votre patate douce de la farine, de la maïzena et du parmesan. Vous faites une petite pâte avec vos mains. Si ça colle, on rajoute de la farine. Et là, vous confectionnez des petits boudins que vous coupez et vous estampillez à la fourchette, d'où les petits traits des fameux gnocchis. Pour la cuisson, c'est hyper simple. Vous balancez vos gnocchis dans une eau bouillante. Dès qu'ils remontent à la surface, c'est que c'est cuit. Et à côté de ça, vous allez me faire une petite crème au parmesan que vous allez rajouter dessus. C'est-à-dire que vous allez faire chauffer de la crème, vous rajoutez du parmesan, vous fouettez tout ça. Et si vous avez un petit... pour monter les eaux en neige, vous émulsionnez votre crème pour apporter un petit côté aérien à vos gnocchis de patates douces et parmesan. Voilà Sylvie.
Merci beaucoup. Gnocchis de patates douces au parmesan contre patates douces farcies et riz aux légumes.
Bon, Sylvie. Alors, je pense que je vais prendre la recette de Louise.
Ah, merci Sylvie.
Mes petits-enfants, ils sont fans de gnocchi et voilà, ce sera l'occasion de faire une variante.
Et ben voilà, et n'oubliez pas de les estampiller vos gnocchis,
oui,
avec la fourchette.
Gnocchis
de patates douces et de parmesan. Victoire de Louise Petit-Renault ce matin, mais finalement la seule grande gagnante c'est vous, Sylvie, car vous venez de gagner deux nuits dans un hôtel Partouche de votre choix, le repas au restaurant du casino, deux soirées avec les animations sur place, et on vous offre 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser, évidemment, et profiter de l'ambiance d'un casino Partouche. Il y en a partout en France, le Continental à Forges-les-Eaux, l'hôtel Cosmos à Contrexéville, il y a l'Aquabella à Aix-en-Provence, le casino à Hyères, le grand hôtel de Divonne-les-Bains, ou même le Pasino du Havre. Merci d'écouter RTL, merci d'écouter la radio, et merci de véhiculer tout le monde dans Angers, en tout cas ce matin.
Merci beaucoup.
Merci Sylvie.
On vous embrasse.
Bonne fête de fin d'année.
À vous aussi.
Merci de même.
Au revoir Sylvie. Je rappelle qu'au 32-10 pour le défi frigo, le casting continue. Et alors je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va servir comme thé sur cette recette victorieuse de gnocchi à la patate douce, François-Xavier ?
Et ben avec ces gnocchi là, cette patate douce, moi je verrais bien des bourgeons de Yunnan, un thé ample, assez capiteux, et en plus il se maigrira très bien avec le parmesan. Tandis qu'avec la première recette, j'aurais mis un thé fumé, parce que ça rappelle le brunch. Ah oui. Ça me rappelle aussi le Pérou, la Colombie, où on mange des patates douces au petit-déj. Et voilà, c'est un autre accompagnement, et c'est un bonheur de pouvoir trouver comme ça le thé qui accompagne.
Question vite fait, comment on boit le thé? Quelle est la température de l'eau? Quelle eau est-ce qu'on utilise? Est-ce qu'on met du sucre? Est-ce qu'on met pas de sucre? On en parle dans quelques instants. C'est François-Xavier Delmas qui est notre invité et qui signe Thé Sommelier, le thé en 160 leçons illustrées, coécrit avec Mathias Minet, illustration de Lauriane Thiberguin, pour tout savoir sur le thé.
I've been alone inside my mind. Yeah, I know what I felt kept me down, that ain't right. Those days of feeling lonely, ever drift with fading lights. Every time that you say you love me, I come alive. All I need is the way that you love me. And all I want is all right here. And all I fear is to be without you, my shining light. Yeah, I've been on my own most my life. Isolation brought me down every time.
Extrait du premier album d'Aimé Simone, Say Yes, Say No sur RTL. On va continuer à vous parler de thé, ce qui va donner une quatrième et dernière démonstration et dégustation d'ailleurs dans quelques instants avec François-Xavier. Qu'est-ce qu'on va goûter?
On part dans le Fujian.
C'est-à-dire?
En Chine.
Bon,
des perles de jasmin.
Non, je t'ai plus. À tout de suite sur RTL.
Ne bougez pas. Dans un instant, retour de RTL vous régale.
Un homme debout tout à l'heure pour refaire la télé. En
Claudio.
Avec Claudio Capeo. J'espère qu'il va mettre debout. Je suis pas sûr qu'on ait assez de chaises parce qu'il y aura beaucoup d'invités surprises.
Ah oui, là, il y a ce qu'il faut.
À tout de suite.
Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault.
Je ne vous cache pas que dans le studio de cette émission ce matin à RTL, il y a un parfum, enfin il y a des parfums. Qu'est-ce qui dégage autant de parfums ? C'est le thé ou ce sont les feuilles de thé que j'ai à côté de moi ?
Là on a un parfum de jasmin, il y a des parfums de fumée, il y a des parfums de grillé, ce sont à la fois le feuille et les liqueurs. Le début du bonheur du thé, c'est de sentir la feuille, c'est pas juste de boire le thé. C'est au moment où on va se préparer une tasse de thé et on met son nez dans les différentes boîtes qu'on a chez soi et on se dit voilà, avec le temps qu'il fait aujourd'hui, avec tel ou tel, quel est le thé qui me donne envie ?
Bon, on va prendre du plaisir avec la quatrième dégustation.
Oui.
Je vous posais la question tout à l'heure et je voudrais que vous nous expliquiez comment on boit le thé. Quand on achète des thés comme cela, on le boit pas n'importe comment. Il faut une température pour l'eau, il faut quelle eau par exemple ? Est-ce que de l'eau du robinet, de l'eau de ville fonctionne ?
Le thé déteste le chlore et le calcaire. Donc il faut une eau si possible minérale.
Minérale en bouteille.
Disons, si on achète un beauté, il faut se soucier de la façon dont on le fait. Si on n'achète pas un beauté, il ne deviendra jamais excellent si on a acheté au départ un truc qui ne va pas.
Ok, donc on achète un bon thé, on prend de l'eau minérale.
En bouteille.
De l'eau en minérale.
Dans la bouilloire.
Voilà, et on a une bouilloire avec une température, si on aime beaucoup le thé, c'est important.
Ça se sert à quelle température ?
Indispensable.
85 degrés ?
Ça dépend, le Gyokuro de tout à l'heure, le premier, il infuse normalement à 50 degrés, 60 degrés. À 80 degrés, c'est pas raisonnable pour un thé comme celui-là. Donc, le tout, après... Si
pardonnez-moi, François-Xavier. Il est possible que je vous pose d'autres questions. Hein.
Par exemple, mettre de l'eau bouillante sur du thé, c'est criminel.
Oui, ça sert à rien. Disons que là, beaucoup de thé infuse à 90 degrés... Donc, en gros, c'est un peu avant l'ébullition.
C'est pour ça que je disais 85. Hein.
Voilà, exactement. C'était parfait.
84.
Donc là, pour la plupart des thés noirs, on est parfait. En général, les thés verts, et notamment les thés verts japonais, nécessitent des températures inférieures.
Très bien. De l'eau minérale, 80 degrés à peu près.
Oui.
Ça dépendra des thés. Est-ce qu'on met du sucre ou pas ?
Oh
non, mais je pose des questions.
Non, mais j'ai peur de la réponse.
Non.
Est-ce qu'on peut ?
Non, si vous avez envie de quelque chose de sucré, vous avez un loukoum à côté, si vous ne pouvez pas vous en empêcher, ou autre chose, ou une petite tartelette de quelque chose. Mais le thé, non, on met pas de sucre. À moins d'être en Inde, où là, dans la rue, toutes les 5 minutes, il y a un marchand de thé ambulant qui vous propose du chai, qui est du thé avec des épices, du lait, du sucre. Alors là, c'est la totale. Ou si vous allez au Maroc et que vous dites non sans sucre, ils vont vous regarder bizarrement.
Mais
c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a le thé qui correspond à une coutume locale, et puis il y a le thé ici, là où on est sérieux, c'est de la gastronomie, et où on analyse une matière première qui nous fait plaisir.
C'est mieux, faut le dire vite. Ouais. La quatrième dégustation.
Ah, la perle de jasmin.
Posez pas la question du lait.
Je suis calmé pour un bout de temps.
Parce que le thé au beurre de yak rance, c'est pas mal non plus.
Oui.
Hein.
Alors quand on parle de beurre de yak
dans
après...
une moon boat,
ce fut une de mes grandes expériences
de
voyage.
C'est un truc à quoi, c'est
des perles. Alors là, les perles de jasmin.
Bon, on se regroupe. Qu'est-ce qu'on boit comme quatrième dégustation ?
Des perles de jasmin. C'est un thé qui a été parfumé avec des fleurs de jasmin. 7 nuits de suite, des feuilles de thé ont été mises en commun avec des fleurs de jasmin fraîches et au petit matin, on les a séparées.
C'est fantastique.
Oui.
Ça, franchement, c'est fantastique.
C'est délicat.
Ouais, c'est extrêmement
parce qu'après,
délicat.
Je trouve que c'est important de goûter ce thé-là parce que les gens, ils vont vous ranger souvent. Bon, il y a l'été d'origine, il y a l'été parfumé.
Bon.
Mais il y a aussi des choses incroyables, un savoir-faire incroyable, juste en ayant prélevé des petites fleurs dans la nature. C'est un boulot de dingue hein, parce qu'il faut une fleur par gramme de thé.
Du coup, c'est cher ?
Ah, justement, une question pour Jean-Xavier. Un cadeau à faire, on prépare les cadeaux de Noël. On veut faire découvrir un seul thé, pas de un thé à notre tante, à notre père, à notre mère. On choisit lequel et ça coûte combien et ça nous dure combien de temps ?
On en offre plusieurs parce que la curiosité, l'offre plus large, c'est ça qui fait le bonheur du thé, c'est d'avoir le choix.
Combien ça coûte ?
Vous prenez un Bancha Ojicha, un Grand Yunnan Impérial, vous en avez pour moins de 20 euros. Mais si vous voulez, vous prenez un Perle de Jasmin et un Jukro de Corée du Sud, là vous avez un truc absolument incroyable et on est dans les 40 euros, 50 euros.
Mais ça nous dure quoi ? Ça fait combien de thé, ça, à peu près ?
Ça vous dure le plaisir.
Ah, c'est ça, je me disais aussi. Et le plaisir n'a pas de prix.
Et combien dure le plaisir ? Enfin bon, voilà. Dites-moi, on est dans l'ambiance de Noël d'ici quelques jours. On va s'y mettre un petit peu tous ensemble. Là, il y a le thé féerique qui met dans l'ambiance de Noël, qu'on trouve chez vous.
Oui.
C'est quoi ?
Ce sont des mélanges où on va parfumer le thé avec des fleurs, avec des fruits. Alors, il y a 36 recettes.
Agrumes, cannelle.
Voilà, en gros, c'est toujours des agrumes, des cannelles, des fruits secs. Et c'est de même que la tradition du vin chaud en France est importante. Et bien, quand on est au coin du feu et on a envie d'avoir d'avoir un grand mug, de se réchauffer les mains.
Je vois, et très voilà. Bien. Toutes les infos sur palaisdété.com. Il y a un blog également, chercheurdeté.com, où vous racontez des histoires. Un thé, un voyage.
Et des photos pour faire participer le bonheur de voyager et d'aller au bout du monde.
Et je rappelle que vous signez Thé Sommelier, le thé en 160 leçons illustrées aux côtés de Mathias Minet pour tout savoir sur le thé. Allez, dans un instant, puisque le thé est un voyage, Jean-Seb, vous en êtes un autre.
Oui, on va rester au Food Chain justement, et on va peut-être découvrir un thé qui vaut beaucoup, 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 beaucoup plus cher.
On part en Chine ? Oui. À tout de suite sur RTL.
Tout de suite, retour de RTL vous régale.
Allez, j'en profite pour vous dire que vous pouvez tenter de gagner une Fiat 500 électrique avec la complicité d'RTL, des Grosses Têtes et de Fiat. Vous appelez le 3210 dès maintenant, 50 centimes d'euros la minute, ou bien vous envoyez le mot voiture par SMS au 74 975 centimes d'euros par SMS, 4 SMS maximum. Et rendez-vous dans les Grosses Têtes jeudi 1er décembre pour savoir si vous êtes l'heureux gagnant de cette Fiat 500 électrique. Je vous souhaite bonne chance.
RTL vous régale
avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault.
Alors quand on évoque le thé depuis le début de cette émission, c'est vrai qu'on parle de voyage lointain, on va en faire un dernier et on va partir en Chine, Jean-Seb.
Mais oui, au début de l'émission, j'évoquais les trois origines légendaires du thé. En Chine, tout a commencé à une date très précise, en 2737 avant notre ère, en Chine. C'est toujours très précis hein, dans l'Empire du Milieu, alors que l'empereur Qianlong faisait bouillir de l'eau à l'abri d'un arbre pour se désaltérer. Il y a une légère brise qui agiterait les branches de l'arbre. Quelques feuilles s'en sont détachées, elles se mêlèrent à l'eau et lui donnèrent une couleur et un parfum délicat. L'empereur y goûta, s'en délecta, en reprit. L'arbre était un théier sauvage, le thé était né. À partir de là, on trouve dans la saga du thé pléthore d'histoires qui traînent dans les grimoires, qu'ils soient chinois, indiens ou japonais. Si on reste en Chine et si on se rend dans la province de Fujian, au sud de Shanghai, on trouve la production d'un des thés les plus prestigieux de toute la Chine et du monde, le Dahong Pao. À l'origine, il y a encore une légende. Elle raconte que durant la dynastie Ming, la mère de l'empereur était été frappée par une maladie rarissime. Et on l'aurait guéri grâce à une infusion de feuilles de thé provenant d'arbustes poussant à même le roc, au cœur des monts Fuyi. Reconnaissant, l'empereur ordonna que l'on habille de robes rouges les cinq théiers d'où provenaient ces feuilles miraculeuses. Dahong Pao signifie « grande toge rouge » en chinois, en référence à ces riches tissus dont on a recouvert cérémonieusement les théiers, encore vivants aujourd'hui dans le parc de Fujian. Ces théiers sont vénérés. Ils sont protégés comme un patrimoine culturel unique en Chine et leur exploitation est désormais interdite. En 2002, on a vendu pour la dernière fois, je crois, une récolte de 20 grammes prélevés sur ces arbustes pour la modique somme de 35 000 dollars pour 20 grammes. En 1972, le président Mao Zedong reçoit Richard Nixon. C'est la première visite d'un président américain en Chine. Mao offrit 50 grammes de ce thé unique à Richard Nixon. Le président américain, bien évidemment, dans toute sa culture, s'est senti insulté par un cadeau aussi ridicule. Alors on lui a expliqué en coulisses que ce n'était pas n'importe quel thé et quel honneur on lui faisait. Et en fait, c'est peut-être pour cela, dans ses mémoires, qu'il a parlé d'une semaine qui avait changé le monde. On ne soupçonne pas le pouvoir du thé.
Ne bougez pas. Dans un instant, RTL vous régale revient. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault.
Et François-Xavier Delmas, qui était notre invité, merci de nous avoir rendu visite. Si on veut s'initier au thé, si on n'y connaît pas grand-chose, ou au contraire, si on est vraiment passionné et qu'on veut aller plus loin, il y a l'école du thé que vous avez fondée.
Absolument, parce que la pédagogie, le faire connaître le thé, bah, c'est une sorte de mission et c'est un bonheur que j'aime partager. Et le partager avec vous, c'était là aussi un vrai moment de bonheur.
Merci de nous avoir enseigné l'essentiel du thé dans une émission dans laquelle on a appris pas mal de choses.
Merci François-Xavier Delmas, vous êtes un magnifique ambassadeur du thé. Grâce à vous, on a appris que le thé est le bourgeon et les feuilles du camélia. C'est une belle découverte. Fleur de geisha, grand yunnan impérial, Saint James. On a aussi eu Angèle de la guinguette d'Angèle qui nous a partagé une sublime recette de risotto au thé matcha. Comme quoi, le thé se cuisine bien. En tout cas, merci de nous avoir fait voyager. La semaine prochaine, on vous emmène arpenter les allées du marché de Noël de Strasbourg. Vous sentez là les garçons, le vin chaud, le pain d'épices, hein, ça y est, on y va.
Ouais, cardamone, etc. Ça sentira le thé de nouveau sur le marché de Noël de Strasbourg, vous allez voir. Merci à tous. Je rappelle que toutes les infos sont à retrouver dans le podcast de cette émission directement sur l'application RTL ou sur rtl.fr. Très bon week-end. Tout de suite, on refait la télé. Jade, Éric Dussard reçoivent Claudio Capéo et Chris de la Starac. À samedi prochain.